Vous écoutez, on lit pour vous.
Économie de l'abonnement, coffre-fort numérique et témoins refusés. Un texte d'Alain Mekena, paru le 21 janvier 2026 dans la presse. Daniel Lavoie, un lecteur, demande « Mes abonnements annuels à différents médias numériques sont payés par carte de crédit et se renouvellent automatiquement. Comment contrer cet automatisme? Existe-t-il une forme de chèque informatique qui permettrait de payer sans renouvellement automatique? » C'est le modèle d'affaires préféré de l'économie numérique. Il est conçu précisément pour profiter de notre distraction. Vous n'êtes pas le seul à vouloir reprendre le contrôle de vos abonnements. Pour répondre à votre idée de chèque informatique, la solution la plus proche est la carte de crédit prépayée, comme on en trouve en pharmacie ou dans des applications comme Koho. Vous chargez le montant exact de l'abonnement sur la carte, et lors du renouvellement, si le solde est à zéro, la transaction échouera et l'abonnement s'arrêtera de lui-même. C'est radical, mais efficace. La méthode la plus simple ne nécessite aucune technologie particulière, seulement un changement d'habitude. La règle d'or est la suivante. Abonnez-vous et désabonnez-vous immédiatement. Dès que vous avez payé votre excès d'un an, rendez-vous dans les paramètres du compte et annulez le renouvellement automatique sur le champ. Vous conserverez l'accès au service jusqu'à la fin de la période déjà payée, mais le lien sera coupé pour le cycle suivant. Considérez l'annulation du renouvellement comme la deuxième étape obligatoire du processus d'achat. Alain Caron, un lecteur, demande « Qu'est-ce qui protège les gestionnaires de mots de passe d'être piratés? » Si un individu mal intentionné obtient la clé, il aurait accès à tout le contenu? C'est la crainte légitime si on met tous ses œufs dans le même panier. Pour répondre à votre question, la sécurité repose sur une architecture appelée « zéro connaissance ». Vos données sont chiffrées directement sur votre appareil avant d'être envoyées sur les serveurs de l'entreprise. Ce qui est stocké en ligne est illisible sans votre clé. Si les serveurs de l'entreprise sont piratés, les voleurs ne récoltent qu'une bouillie numérique impossible à déchiffrer. Pour votre deuxième question, la réponse est malheureusement oui. Le mot de passe maître est la clé unique du royaume. Si vous le donnez à quelqu'un, il a accès à tout. Comme dans bien d'autres cas, le point faible du système est humain. C'est pourquoi l'activation de l'authentification à double facteur, A2F, est une option vitale. Avec cette protection activée, même un malfaiteur qui vole votre mot de passe maître restera bloqué à la porte car il lui manquera le second code, envoyé sur votre téléphone ou généré par une application. Ce deuxième verrou empêchera la catastrophe. Rosaire Chaput, un lecteur, demande « Lorsqu'on refuse les témoins d'une application, cette application fonctionnera-t-elle moins bien? » C'est une crainte très répandue, alimentée par la formulation un peu culpabilisante de certaines fenêtres contextuelles. On a peur de briser l'application en refusant tous les fichiers témoins. Cookies. Soyez rassurés, dans la grande majorité des cas, l'application ne fonctionnera pas moins bien. Lorsque vous cliquez sur « Tout refuser » ou « Demandez à l'application de ne pas faire de suivi » sur iPhone, vous bloquez surtout les pisteurs publicitaires et les traceurs tiers. Ces outils servent à dresser votre profil de consommateur pour vous vendre des produits et non à faire fonctionner la mécanique du site ou de l'application. Les témoins dits essentiels permettent à l'application de se souvenir que vous êtes connecté ou de conserver vos préférences d'affichage. Ils sont généralement gérés séparément et restent actifs pour assurer la stabilité du service. La seule conséquence visible de votre refus sera la pertinence des publicités. Vous verrez toujours autant de réclames, mais elles seront génériques plutôt que ciblées sur vos dernières recherches web. C'est un petit prix à payer pour protéger votre vie privée. C'était « Économie de l'abonnement, coffre-fort numérique et témoins refusés ». Un texte d'Alain Mekena, paru le 21 janvier 2026 dans la presse.
La corruptibilité des intelligences artificielles. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse. Flanqué de son intelligence artificielle, Google a retrouvé une petite noblesse fonctionnelle. Je parle ici uniquement de la partie intégrée au moteur de recherche pour nous aider à trouver des informations, mode IA. Vous cherchez des endroits où trouver de la nourriture à emporter à Baie-Saint-Paul? Il vous fera un petit résumé et vous donnera une liste des meilleurs endroits avec une certaine honnêteté. Ceux qui ont vu arriver ce moteur de recherche dans nos vies y retrouveront une forme de pureté qui rappelle ses premières années, lorsqu'il était moins corrompu par l'argent. Mais comme le capitalisme numérique est aussi une histoire de gros profits, Google a fini par devenir un énorme tas d'informations où ceux qui lui rapportent le plus d'argent sont favorisés. Vous cherchez un hôtel où loger? Et les sites de réservation apparaissent largement en tête de vos résultats. Parfois, les sites des hôtels sont introuvables, sous cette grosse masse d'informations inextricables. Les petites places agréables, mais moins bien référencées, disparaissent sous les grands acteurs du milieu. À moins de les chercher spécifiquement, les trouver devient aussi difficile que chercher une aiguille dans une botte de foin. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle intégrée au moteur de recherche Google, mode IA, trouver une information avec ce moteur de recherche était devenu anxiogène. En cause, notre cerveau gère très difficilement le fait d'être confronté à des milliers de choix. Nous sommes, dit le neuroscientifique Sébastien Boller, angoissés par l'infini des possibilités, car notre cerveau n'a pas été préparé par la sélection naturelle à gérer autant de choix provenant d'une simple petite recherche. Devant ces tonnes d'informations, le cerveau angoisse, car il réalise subitement qu'il faudrait toute une vie pour tout consulter. Aussi, face aux choix qu'impose une diversité trop vaste, dit l'auteur, nous découvrons une angoisse nouvelle, celle de l'indétermination. La pensée des possibilités qui seront non explorées et potentiellement tentantes stimule notre cortex singulaire et y génère une tension psychique. Ces dernières années, un terme générique est apparu dans le champ lexical relié à l'Internet pour expliquer ces désagréments psychologiques des temps modernes. Le FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Cette nouvelle anxiété s'invite dans le corps d'une personne qui craint de se faire rappeler par d'autres internautes qu'elle a raté le rendez-vous avec une expérience, une occasion ou une tendance. Malheureusement, puisqu'on ne peut pas être partout en même temps dans les médias, les chances de voir ses amis publier sur Instagram des photos d'une fête ou d'un spectacle qu'on a manqué font du FOMO une anxiété incontournable dans notre monde hyper connecté. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cortex singulaire d'une personne aux prises avec un tel dilemme, il suffit, recommande Boller, de dîner dans un de ces restaurants vietnamiens dont la carte compte au moins 18 pages. Devant toutes ces possibilités qu'on ne pourra jamais expérimenter, certains clients deviennent très angoissés par la peur de faire le mauvais choix. Pour apaiser son cerveau, il y a toujours dans un groupe une personne qui propose de choisir des plats différents et de jouer collectivement au pique-assiette. C'est sa façon de minimiser le nombre des possibilités qu'elle devra inévitablement laisser en plan. Malgré tout le regard critique que j'ai sur les dérives potentielles de l'IA, je dois reconnaître que le mode IA intégré au moteur de recherche Google nous aide véritablement à amenuiser cette angoisse devant des centaines de milliers de possibilités. Un problème joliment exprimé dans l'expression québécoise « trop, c'est comme pas assez ». Jusqu'à maintenant, le moteur de recherche nous fait un résumé et nous propose une courte liste de possibilités avant de dérouler le menu infini de résultats, ce qui permet de trouver des propositions intéressantes qui, auparavant, n'auraient jamais été assez importantes pour apparaître prioritairement dans notre recherche. Mais la question qui tue est la suivante. Combien de temps durera cette virginité fonctionnelle? Gageons que cette intelligence artificielle sera bientôt corrompue par l'argent. Dans la courte liste que le mode IA de Google nous propose, les plus forts allongeront bientôt de l'argent pour y figurer de façon prioritaire. Ils chercheront aussi à payer pour empêcher les informations compromettantes sur leurs produits d'être mises de l'avant. Autrement dit, il est utopique de penser que les IA, si indépendantes, nous chante-t-on, seront à l'abri de cette forme de dérive capitaliste. Après tout, elles ont été créées pour rapporter des profits à des investisseurs. Or, le capitalisme n'a pas de sentiment quand il y a de l'argent à faire. Si les intelligences artificielles finissent par incorporer tous les défauts de l'humanité, que deviendront-elles exactement? Elles se transformeront en intelligences indissociables du favoritisme, de la corruption, de la mystification et du mensonge opportuniste. L'argent sera pour ces cerveaux artificiels ce que la dopamine est à notre système de récompense. Autrement dit, une fois corrompus et gavés de tous nos péchés capitaux, les IA deviendront plus proches des intelligences naturelles que nous sommes. C'était la corruptibilité des intelligences artificielles. Un texte de Boucard Diouf, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse.
Les inégalités économiques croissantes pavent la voie à la montée des autoritarismes. Un texte de Jonathan Martineau, paru le 29 janvier 2026 dans La Conversation. En concentrant la richesse et le pouvoir entre les mains d'une minorité, le système économique dominant fragilise les démocraties et ouvre la voie aux autoritarismes, révèle le dernier rapport d'Oxfam, publié la semaine du 19 janvier en marge de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, un choix de calendrier loin d'être anodin. Alors que les élites économiques et politiques mondiales s'y réunissaient pour débattre du nouvel ordre mondial et de stratégies pour diversifier les marchés et maintenir la croissance économique mondiale à flot, le rapport d'Oxfam dresse quant à lui un constat accablant. Le système économique dominant produit des niveaux d'inégalité sans précédent historique. Loin d'être des anomalies conjoncturelles, ces inégalités apparaissent comme le symptôme structurel d'un modèle économique fondé sur l'exploitation dont les effets menacent de plus en plus la stabilité démocratique à l'échelle mondiale. Professeur de philosophie au Liberal Arts College de l'Université Concordia, mes recherches portent sur le temps, la technologie et l'économie politique du capitalisme contemporain. Un système inégalitaire. Le rapport souligne d'abord l'extrême concentration de la richesse. Les 12 milliardaires les plus riches de la planète possèdent aujourd'hui une richesse équivalente à celle détenue par la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit environ 4 milliards de personnes. Ce chiffre, déjà frappant en soi, illustre une dynamique propre au capitalisme contemporain. Les inégalités ne sont pas qu'un résultat indésirable du système, mais une structure fondamentale de son fonctionnement. Les marchés mondiaux reposent sur une série de relations sociales structurées par des rapports de propriété et de pouvoir asymétriques entre les personnes et les pays. Le système ne fait pas que concentrer la richesse une fois qu'elle est produite, il crée de la richesse sur la base de rapports sociaux inégaux. La richesse des uns dépend de la pauvreté des autres. L'un des constats les plus préoccupants du rapport réside justement dans cette mise en parallèle de l'augmentation de la richesse des milliardaires et de la progression de l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Les données présentées indiquent que ces deux phénomènes suivent des trajectoires similaires. Alors qu'une fraction infinitésimale de la population mondiale voit sa richesse croître de manière exponentielle, des centaines de millions de personnes basculent ou demeurent dans des situations de précarité alimentaire. Cette relation n'est pas fortuite. Le système privilégie la maximisation du profit plutôt que la satisfaction des besoins fondamentaux et l'accès aux nécessités dépend de la capacité de payer et non d'un droit humain. De l'économique au politique. L'évolution récente de la fortune des milliardaires renforce ce diagnostic et ouvre également sur les dimensions politiques du problème des inégalités. Depuis la seconde élection de Donald Trump en novembre 2024, la richesse des milliardaires a augmenté à un rythme trois fois supérieur à la moyenne observée au cours des cinq années précédentes. Cette accélération ne peut être comprise indépendamment des choix politiques favorables au capital, déréglementation, baisse d'impôts sur les hauts revenus et le capital, affaiblissement des mécanismes de redistribution et du pouvoir de négociation du travail. Aux États-Unis, la convergence entre les intérêts des milliardaires de la tech et les politiques économiques de l'administration Trump illustre également cette dynamique. Le rapport met ainsi en lumière l'imbrication étroite entre la sphère politique et les inégalités économiques. Ces inégalités économiques ont également des conséquences majeures sur les processus démocratiques. Le rapport d'Oxfam montre que les milliardaires ont environ 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyennes et citoyens ordinaires. Cette surreprésentation des élites économiques dans les sphères du pouvoir contribue à orienter les politiques publiques en fonction de leurs intérêts propres. Dans un tel contexte, les institutions démocratiques tentent à fonctionner de manière formelle, tandis que leur substance, l'égalité politique et la souveraineté populaire, s'érodent progressivement. Les données comparatives présentées dans le rapport renforcent ce constat. Les pays caractérisés par les niveaux d'inégalité économique les plus élevés présentent un risque sept fois plus important de voir leur démocratie s'affaiblir que ceux où les inégalités sont les moins prononcées. Loin d'être un simple enjeu de justice distributive, l'inégalité apparaît ainsi comme un facteur structurel de déstabilisation démocratique. Lorsque de larges segments de la population sont exclus des bénéfices économiques et privés de toute influence politique réelle, la confiance envers les institutions décline, ouvrant la voie à des formes politiques autoritaires. Contrôle, répression et délégitimation. Dans ce contexte, l'argument selon lequel le capitalisme contemporain engendre des formes politiques autoritaires mérite une attention particulière. Plus les inégalités se creusent, plus le maintien de l'ordre social existant requiert des dispositifs de contrôle, de répression et de délégitimation des revendications populaires. Par exemple, les discours anti-immigration, de ce point de vue, peuvent servir de diversion afin de canaliser la grogne populaire non pas envers les classes dominantes, mais envers des boucs émissaires vulnérables. La montée des droits autoritaires dans de nombreux contextes nationaux peut ainsi être interprétée non pas comme une rupture avec le système économique dominant, mais comme l'une de ses modalités de stabilisation politique face à des contradictions internes croissantes. En dernière analyse, le récent rapport d'Oxfam met en évidence un enchaînement préoccupant. concentration extrême de la richesse, aggravation de la précarité matérielle, captation du pouvoir politique et érosion démocratique. Le rapport invite donc à dépasser une lecture strictement morale ou technocratique des inégalités. Celles-ci ne sont pas de simples excès qu'il suffirait de corriger à la marge par des ajustements fiscaux. Elles constituent le produit normal d'un système économique fondé sur l'exploitation et la précarité du plus grand nombre et la subordination de la démocratie aux intérêts économiques. Dans ce cadre, la défense de la démocratie ne peut se limiter à la protection des procédures électorales. Elle suppose également une transformation plus profonde des structures économiques qui conditionnent l'exercice effectif de la citoyenneté. Résister à la montée des autoritarismes implique dès lors de s'attaquer aux causes structurelles de ces dynamiques. Cela passe non seulement par des politiques de redistribution ambitieuses, mais aussi par le développement de formes d'organisation économique et sociale alternatives au capitalisme, plus à même de mettre l'économie et le travail au service des besoins de tous et toutes, plutôt qu'à l'accumulation privée des richesses par une poignée de milliardaires. C'était « Les inégalités économiques croissantes pavent la voie à la montée des autoritarismes », un texte de Jonathan Martineau, paru le 29 janvier 2026 dans La Conversation.
Prendre soin de sa santé, bis, un texte de Patrick Lagacé, paru le 20 décembre 2025 dans La Presse. Je ne m'attendais pas à une telle déferlante de réactions quand, récemment, j'ai chroniqué sur la part de responsabilité individuelle que nous avons face à notre santé. Le point central de la chronique portait sur l'importance de la capacité cardio-respiratoire pour la santé globale, pour améliorer ses chances d'éviter cancer, diabète et autres plaies de santé. Même une légère amélioration du cardio, du VO2 max, le simple fait de passer de la catégorie faible forme physique à la catégorie forme physique inférieure à la moyenne, entraîne une réduction de la mortalité sur un horizon de 10 ans. Vous avez été nombreux à m'écrire vos propres histoires d'épiphanie, de moments où vous avez compris qu'il fallait se prendre en main. Parfois, une visite chez le médecin, qui vous lit la loi de l'émeute en décryptant vos résultats de laboratoire. Ici, un cancer, là, un infarctus. Je disais, là-dessus, sur l'activité physique, le gouvernement n'a rien à voir, ou presque. On doit aussi se botter le derrière soi-même, bouger. Daniel, il y a un an, mon conjoint et moi avons entrepris de faire une marche rapide d'une heure chaque jour, beau temps, mauvais temps, en plus de changer notre alimentation et d'éliminer le sucre. J'ai perdu 30 livres et mon mari 50, sans difficulté. Score des courses de la marche, après un an, Daniel a cessé ses médicaments pour l'hypertension car celle-ci est devenue trop basse. Mon médecin m'a dit que si tout le monde faisait ça, les médecins manqueraient de travail. Josée, elle, a eu un diagnostic de cancer du côlon fin 2021. « Docteur, vais-je mourir ?» Réponse du doc, « Je ne suis pas inquiet, vous allez vous en sortir. Mais je suis pas mal plus inquiet pour votre foie. » Elle avait un foie gras. Le médecin a simplement dit à Josée, « Vous savez ce que vous avez à faire. » José a décidé de se prendre en main après son opération de janvier 2022, si je puis dire, en faisant bouger ses pieds. 18 500 pas par jour, comptés par sa montre intelligente, en plus d'entraînements réguliers à haute intensité. Son VO2 max a explosé, son foie n'est plus gras, le diabète est parti, 105 livres en moins. « Merci à mon chirurgien, dit-elle, pour le coup de pied dans le cul. » J'ai reçu plusieurs témoignages du même genre. Des gens qui, sans être dans une forme pour faire le décathlon aux Jeux olympiques, sont capables de monter quelques paliers d'escalier sans craindre de faire le 911. Pour beaucoup, beaucoup de gens, Le sport qui leur a permis d'améliorer un cardio en berne est le plus plate qui soit, la marche. Quelques lecteurs progressistes m'ont sermonné sur le fait que ce n'est pas tout le monde qui peut bouger, courir, aller au gym, que tous ne résident pas dans le segment socio-économique privilégié qui permet de faire du sport. Mon message, c'est juste que, quand on peut bouger plus, juste un peu plus, on devrait. Ça ne dépend que de soi, bien souvent. Mais chez ceux qui peuvent, il n'y en a pas assez qui le font. Mon message, c'est que la sédentarité gagne du terrain et que la sédentarité nous tue à petit feu. En seulement 6 ans, le nombre de Canadiens qui marchent 7500 pas par jour a fondu. Il y a 6 ans, 49% des Canadiens marchaient ce minimum recommandé. Nous ne sommes plus que 32% à le faire. Explication. La pandémie a popularisé le télétravail qui nous fait sortir moins souvent. Donc, même l'activité physique passive, celle de tous les jours, diminue. Nous sommes en passe de devenir des patates de salon. Un chercheur en mobilité de l'Université McGill, Jérôme Laviolette, a apporté un bémol sur le fait que la décision de bouger commence et finit avec soi-même. Je le cite longuement parce qu'il a raison. Je me suis un peu trop étiré le cou sur cette certitude que ça ne dépend que de nous. Rendre nos villes plus sécuritaires et plus agréables pour la marche et le vélo relève du gouvernement, dit Jérôme Laviolette. Et ça, c'est permettre à davantage de gens de se déplacer à pied et à vélo en mobilité active. En somme, oui, il y a une question de choix individuel. Ce ne sont pas tous les résidents de quartiers marchables et cyclables qui marchent et qui pédalent pour se déplacer pour le loisir. Mais la proportion de gens qui le font est plus importante dans les quartiers marchables que dans les quartiers davantage orientés vers l'automobile. J'ajouterai encore aussi, l'État devrait marteler le message que pour la moyenne des ours, bouger est la meilleure façon de visiter le médecin moins souvent. Loi 2 ou pas, code de couleur ou pas, une façon de désengorger le système et de libérer les rendez-vous chez le médecin est une population qui bouge et qui a moins besoin de voir le doc. C'était « Prendre soin de sa santé, bis », un texte de Patrick Lagacé, paru le 20 décembre 2025 dans la presse.